J'ai été coach de basket pendant pas mal d'années, en plus d'être joueur. Et puis il y a une chose que tu réalises, c'est que parfois, même dans les meilleures équipes, il commence à se passer un schéma répétitif. Et puis sur deux, trois, quatre actions, tu peux comprendre que quelque chose ne va pas. Et là, en tant que coach, ce que tu fais, c'est que tu demandes un temps mort. Et puis tu rassembles ton équipe et tu leur dis, les gars, là, en général au basket, un temps mort, c'est 1 minute. Tu leur dis, pendant 1 minute, là, il faut se reprendre. Là, il faut se ressaisir. On est en train d'aller dans une spirale qui ne va pas. On ne peut pas continuer à jouer comme ça. Dans ce nouvel épisode de Let's Talk Leadership, on va parler de ça. On va parler de comment être une équipe performante et une équipe qui sait éviter les pièges courants. Alors, je suis content que tu sois là. Mets-toi en place. On commence tout de suite. Salut à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouvel épisode. C'est un épisode un peu particulier dans le sens, il y a plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que il conclut un peu ce que j'avais envie de partager sur la notion d'équipe. Ça veut dire que c'est un petit peu le dernier épisode avec ce type de contenu pour cette saison. On va terminer avec comment éviter les pièges courants dans le travail d'équipe. Mais ce n'est pas la fin de la saison parce qu'il y a encore 2 épisodes bonus qui vont arriver. Un épisode avec un interview, je me réjouis que tu puisses entendre cet épisode. Et puis un dernier épisode avec vos questions. Alors je profite encore une fois de vous dire, si vous avez des questions, si vous posez des questions sur le leadership, vous dites mais comment je peux faire pour m'en sortir ou quoi, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Et si jamais tu avais peur parce que tu dis j'ai pas envie d'être affiché, je sais pas si c'est même une possibilité, mais je te dirais simplement ne t'en fais pas, on dira juste le prénom de la personne et puis la question et puis on partira sur les réponses. Donc envoie-nous des questions orientées leadership, que ce soit sur cette saison ou plus largement sur ce que tu vis. On aime interagir avec vos questions. Et puis, on aura aussi, comme je te l'ai dit, un épisode interview où je vais demander à quelqu'un, tu verras très vite qui c'est, demander à quelqu'un un petit peu comment cette personne s'est organisée avec le travail d'équipe, comment est-ce qu'elle a géré cette dimension-là, quels ont été certains des challenges, quelles ont été certaines des choses plus faciles en tant qu'équipe, justement. Et puis, on va juste, c'est un cas d'école, là, c'est un cas de figure, c'est une illustration, mais ce sera une super bonne interview, je me réjouis d'avance. Aujourd'hui, ce qui va nous occuper, c'est les pièges courants d'une équipe. Ça nous arrive régulièrement de tomber dans des pièges qui ne sont pas si nouveaux que ça, en fait. Si tu regardes le travail d'équipe, il y a vraiment des pièges qu'on peut éviter. Et puis, alors, il y en aurait beaucoup, hein, il y a plein de choses qui ressortent, et puis il y a beaucoup de littérature à ce sujet. Moi, j'ai envie de m'intéresser à 6 pièges courants dans le travail d'équipe. Et puis, tu verras, des fois, c'est des choses qui vont te concerner peut-être directement. Des fois, c'est des choses plus culturelles. On va en parler un petit peu, mais ça va être vraiment intéressant. Puis, je pense que ça va peut-être aussi, en tout cas, c'est ce que j'espère, déclencher une capacité, comme pour un coach, d'identifier ça ne va pas chez nous. On prend un temps mort, on change quelque chose. Alors, sans plus attendre, je vais rentrer dans ces 6 pièges du travail d'équipe. Et je commence avec un piège courant, qui est plus pour le responsable de l'équipe ou pour, mais ça pourrait être n'importe qui dans l'équipe qui rentre dans cette dynamique. C'est quelqu'un qui commence à vivre une réalité où il dit faites ce que je dis, pas ce que je fais. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et ça arrive notamment dans un contexte de croissance. On peut voir au début, les gens sont un peu à tout faire, à s'entraider, à réfléchir, à rêver ensemble. Et puis petit à petit, c'est normal qu'on se structure. Puis c'est normal que tout le monde ne peut pas continuer à tout faire. Sinon, c'est la cacophonie. On ne sait pas du tout. Oui, j'ai bien dit cacophonie parce que c'est comme ça que ça se dit. J'ai des enfants en bas âge, si jamais. Hein. C'est la cacophonie. On ne sait pas qui fait quoi, comment ça se passe, où est-ce qu'on en est. Et en fait, c'est important de réaliser que même si on continue et on se structure et on ne peut pas tous faire tout, c'est important de savoir qui fait quoi. Puis c'est important de non seulement parler, mais aussi continuer à être dans l'action. Et en fait, moi, j'ai aussi appelé ce piège quand ton ego devient plus important que ton équipe. Quand ton ego devient plus important que ton équipe. Ça arrive malheureusement qu'on lance quelque chose puis on se dit « Ah, c'est tellement bien, c'est ce que moi j'ai créé, c'est ce que moi j'ai fait, c'est ce qui est rendu possible par moi. » Puis c'est un gros défi pour plein de raisons. Mais la première des raisons que c'est un gros défi, c'est que si l'histoire c'est à propos de toi, eh ben en fait, l'histoire ne va pas aller très loin. On en a parlé dans cette saison à plusieurs reprises, mais le but c'est que ce que tu mets en place te dépasse. On en a parlé dans d'autres saisons aussi de ce podcast, mais le but c'est que en fait, ce ne soit pas à propos de toi, mais que toi tu deviennes rentable remplaçable et pas irremplaçable. Donc, il faut veiller à ce que ton ego ne devienne pas surdimensionné. Il faut veiller à ce que tu ne sois pas simplement en train de dire « Je vous donne des indications, des ordres, moi j'ai l'aura, je sais de toute façon de quoi je parle, et puis vous, vous faites. » C'est jamais ça, c'est toujours « Nous faisons ensemble. » On n'est pas des dictateurs, on est des leaders. On n'est pas des gens qui donnons des ordres et d'autres qui suivent, on est des leaders serviteurs. Et ça, c'est super important. Donc, fais attention de ne pas tomber dans une dynamique où tu dis des choses, mais tu ne le fais pas. Je reste dans l'illustration un petit peu sportive, mais c'est ce qu'on appelle aussi l'éthique de travail dans le sport. C'est pas parce que tu es le meilleur de ton équipe que tu n'es pas le premier sur le terrain pour t'entraîner et que tu n'es pas le dernier sur le terrain à la fin de l'entraînement. Tu leads par l'exemple, tu montres ce que c'est. Donc, veille à ne pas faire que ton ego prenne toute la place et surtout pas que ton ego soit plus important que ton équipe. Une autre façon que j'ai de parler, puis ça c'est quelque chose qui est vraiment sur mon cœur, de ce problème-là ou de ce piège-là, c'est en fait quand ce que tu mets en place devient une plateforme plutôt que de devenir une table. Dans le leadership chrétien, le modèle, c'est Jésus-Christ. Et puis, Jésus-Christ n'a jamais travaillé à créer sa plateforme à lui, à montrer à tout le monde à quel point il était le meilleur, mais il a toujours invité les gens autour de sa table. Et je pense que c'est important de veiller à construire des tables en tant que leader. J'invite des gens à ma table, on discute, on réfléchit ensemble, on rêve ensemble, et c'est jamais à propos de moi et ce que moi je bâtis, mais c'est à propos de ce que nous vivons ensemble. Et c'est vraiment important. Donc, méfie-toi du piège, faites ce que je dis, ce que je fais. Méfie-toi donc de ton ego qui prendrait trop de place. Méfie-toi de construire une plateforme plutôt que de construire des tables. Un deuxième piège, ça va vite, désolé, prends des notes. La bonne nouvelle avec un podcast, c'est que tu peux le réécouter aussi. Le deuxième piège, dans une équipe, surtout quand ça se complexifie, surtout quand ça commence à augmenter, qu'il y a de plus en plus de personnes qui participent à ça, c'est ce que j'appelle le piège du secret. Le piège du secret ou quand on cultive une culture du secret. La culture du secret, c'est une culture où les gens n'ont pas accès à tout, où on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui est, tu sais, ça m'est pas révélé, ça dépend, c'est comme dans les sociétés secrètes, il y a des niveaux, puis plus tu es dans des niveaux élevés, plus tu as accès à de l'information. Puis des fois, c'est la même chose, tu te dis, ah, mais moi, je viens de commencer dans l'équipe, donc je n'ai pas accès à toute l'information, il faut que je sois X, Y, il faut que j'aie fait mes preuves pour avoir plus d'informations. Je pense qu'il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi on pourrait développer une culture du secret. Des fois, c'est juste la complexité de notre organisme. Ce qu'on est en train de faire, ça prend une forme, ça devient tellement complexe qu'on ne sait plus forcément où, quoi, comment, et puis on se retrouve à vivre les choses avec... du secret malgré nous finalement. On n'a jamais voulu mettre ça en place, mais c'est ce qui prend place gentiment. Je pense que des fois, c'est parce qu'on a peur de l'échec. On a peur si les gens voient ça, si les gens sont informés, par exemple, que dans ce domaine-là, on n'est pas au courant, on n'a pas de réponse ou quoi, eh ben, en fait, ils vont nous juger, ou bien on sera moins bien évalué, ou bien on aura l'impression d'être moins capable. Ça peut être un manque de redevabilité. Je n'ai pas envie que d'autres personnes puissent voir comment je fais, où je fais, comment je fonctionne. Quelle que soit la raison, c'est jamais une bonne raison. Le secret va toujours créer un manque de cohésion, va toujours en fait faire que la cohésion se désintègre petit à petit. Ça fait naître le doute, ça fait augmenter la peur. Alors maintenant, comprends-moi. Bien sûr, il faut avoir de la sensibilité sur certains sujets. Il y a certains sujets où c'est bien que quand on les annonce, ce soit connu, qu'on soit en paix avec l'équipe, qu'on en ait parlé en amont, mais... D'avoir de la sensibilité sur certains sujets ne veut pas dire cultiver le secret. C'est aussi important de réaliser que il y a certains moments où si on devait toujours tout communiquer, ça deviendrait une usine à gaz, surtout quand on grandit puis qu'on se complexifie. En fait, on doit se libérer les uns les autres dans ce qu'on fait et on ne peut pas juste dire toujours « mais je dois savoir où, quoi, comment, qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe ». Mais toujours est-il, moi, j'aimerais vous encourager à veiller à combattre la culture du secret dans vos équipes. Combattez. Et juste te donner quelques tips comme ça, quelques conseils qui peuvent être là. La première de ces choses, c'est que par exemple, si tu utilises une plateforme de communication, tu peux garder le plus possible les canaux ouverts. Nous, on travaille avec Slack. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être une fois, je viendrai sur des outils pour le travail. Mais on travaille avec Slack. Et puis, en fait, on essaye de plus en plus que les canaux soient ouverts. Ça veut dire que tu as un canal qui communique, par exemple, sur la logistique. Mais en fait, ceux qui sont invités, ils sont sur le canal, mais les autres peuvent aller voir ce qui se passe, ils peuvent aller voir ce qui se discute, il n'y a pas de secret en fait, c'est vraiment accessible, il n'y a pas de problème qu'ils voient. Certains canaux, comme je l'ai dit, c'est normal, ils restent secrets, donc ils sont cadenassés sur Slack. C'est-à-dire que c'est seulement les gens qui sont invités qui ont accès au contenu de ces canaux de communication, mais c'est une bonne manière de travailler sur ça. Une autre manière de travailler sur éviter la culture du secret, c'est de laisser connaître à tous les objectifs, les deadlines et les challenges de nos équipes. Nous, on a un tableau dans le bureau et on essaie de mettre en place, voilà, ça, c'est les choses sur lesquelles on travaille, ça, c'est les choses qui nous occupent en ce moment, ça, c'est les priorités qu'on a pour ce domaine-là, et ça fait que tout le monde est au courant de quelles sont les priorités, de où est-ce qu'on en est, de quelles sont les choses sur lesquelles on est en train de travailler, quelles sont les choses sur lesquelles on galère, et ça évite de cultiver le secret. C'est vraiment une bonne manière de le faire. Donc le premier secret que je te disais d'éviter, c'est le secret de l'ego au-dessus de l'équipe, ou alors celui que j'ai appelé « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Le deuxième piège à éviter, c'est le piège du secret. Commencer à cultiver, malgré nous, une culture du secret. Le troisième piège, ça pourrait être presque une sous-catégorie du deuxième, c'est le piège du gossip. C'est un type de secret très précis, très spécifique. Le gossip, c'est un peu cette manière de parler sur les choses qui sont en train de se passer, de parler derrière le dos, en fait. C'est vraiment la meilleure manière, c'est de le voir, le gossip, c'est quand on parle derrière le dos. Et c'est un secret extrêmement particulier, mais profondément malsain. C'est toxique quand il y a du gossip dans les équipes. Ça met une culture malsaine qui divise les équipes. Le gossip classique, c'est tu vas à la machine à café, puis tu dis hey, t'as entendu, il y a tel et tel, apparemment, ils sont en train de faire sur ça, je sais pas trop ce que ça va donner, et puis ah, attends, ils arrivent, on n'en parle pas. C'est vraiment, vraiment malsain. Ça fait qu'il y a une perte de confiance entre les individus. Et puis, tu sais ce qui se passe quand tu commences à cultiver ça. Si tu es une personne qui répand le gossip, j'ai envie de te le dire, tu es en mauvaise position. Parce que c'est sûr que les gens se disent à moyen terme, je ne peux pas lui faire confiance à cette personne. Parce que si elle parle comme ça des autres, c'est sûr que quand je ne suis pas là, elle parle comme ça de moi. Donc, ça fait vraiment diminuer la confiance, ça fait diminuer la paix. On est toujours en train de se dire, mais est-ce que les gens parlent dans notre dos? Est-ce qu'il y a des choses qui me sont reprochées, qui ne me sont pas communiquées? Et c'est vraiment, vraiment important d'oser être franc, d'oser être ensemble, d'oser dire aussi quand on ne comprend pas, quand on n'est pas d'accord, et de ne pas le faire avec d'autres. Maintenant, sur le gossip, j'ai juste envie de dire, des fois, c'est des fois comme un grand mot, puis les gens disent « Ah non, non, nous, il n'y a pas de gossip », mais j'ai envie de te dire, c'est plus sournois qu'on l'imagine. Des fois, le gossip, c'est juste, tu sais, j'ai envie de comprendre ce qui a été dit dans un meeting, et je ne suis pas sûr de l'avoir compris, donc je vais en parler avec un autre collègue, une autre personne qui travaille ou qui collabore avec moi, juste pour m'assurer que j'ai bien compris. C'est pas mal intentionné, cette histoire, c'est vraiment pas un problème, mais petit à petit, on peut tomber, c'est une pente glissante dans le gossip. Ah, toi aussi, tu as trouvé que c'était bizarre quand il parlait. Moi, j'étais pas sûr que c'était bizarre, mais qu'est-ce que tu as pensé là en fait? Comment est-ce que toi, tu as vécu ça? Puis c'est possible. C'est pas toujours le gossip, c'est pour ça que je dis c'est une pente glissante, mais ça peut devenir du gossip. Alors, j'ai envie de te proposer en fait comme un élément qui est ce que j'appelle un trigger warning, un élément qui doit déclencher pour toi. Quand tu commences à entendre ça, tu dis juste attention à ce qui se passe maintenant. Cet élément-là, c'est quand tu parles de quelqu'un qui n'est pas présent. C'est aussi simple que ça. Même si c'est pour dire des bonnes choses, même si c'est pour dire des mauvaises choses, même si c'est pour évoquer des questions que tu aurais, quand tu parles de quelqu'un qui n'est pas présent, tu dois avoir tes antennes qui se mettent en marche. Et tu dois dire, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Comment c'est possible qu'on parle de ça maintenant? Et voilà, moi, les questions que je t'encourage à poser. Si tu es à la machine à café et puis il y a quelqu'un qui dit, t'as vu, j'en sais pas, Robert, il parlait de ça. Et puis toi, tu dis, ah, ok, Robert n'est pas là, attention. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on s'en va vers le gossip? Et je pense qu'il y a deux questions qui, moi, m'ont vraiment aidé à combattre ce problème-là. La première des questions, c'est de dire, avant que tu ailles plus loin, est-ce que tu en as déjà parlé avec Robert? Tu veux me parler de quelque chose qui concerne Robert? Robert n'est pas ici, est-ce que tu lui en as déjà parlé? Si tu lui en as déjà parlé, on peut continuer la conversation et puis on peut voir. Mais une autre question qui m'aide aussi, moi, à éviter ça, c'est de dire à la personne, qu'est-ce que tu attends de moi? Si tu attends de moi de la clarification sur ce que Robert t'a demandé dans le meeting, c'est aucun problème. Je peux te donner voilà ce que moi j'ai compris. Va vérifier avec Robert si c'est juste. Mais je pense que c'est vraiment deux questions. Est-ce que ce qu'on parle maintenant a été évoqué avec les personnes? Si ce n'est pas le cas, va d'abord l'évoquer avec eux avant d'en parler avec moi. Et la deuxième des questions qui aide à combattre le gossip, c'est qu'est-ce que tu attends de moi par rapport à ce que tu me fournis comme information? Est-ce que tu as une question précise? Parce que si c'est juste pour me parler de Robert alors que Robert n'est pas là, ça ne vaut pas la peine. Voilà, troisième piège à éviter, le gossip. Quatrième piège à éviter, puis je ne vais pas en parler trop longtemps, mais c'est le piège de vouloir plaire aux hommes, avec un H majuscule, plaire à tout le monde. Il y a vraiment un défi, et peut-être moi je connais un peu plus les milieux chrétiens, mais je crois que ce n'est pas exclusif aux milieux chrétiens, mais il y a des fois où on cherche à plaire à tout le monde, à déranger personne. Vous verrez, il est proche aussi du prochain piège, mais quand on cherche à plaire à tout le monde, en fait, quand on cherche à satisfaire les attentes, les demandes, quand on ne veut surtout pas déranger, quand on ne veut pas froisser, pas ci, pas ça, en fait, il y a ce qu'on appelle la peur de l'homme. Et puis dans la Bible, il y a quelque chose d'extrêmement clair, c'est que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et du coup, quand je crains les hommes, ça veut dire que mon identité n'est pas assise en fait. C'est-à-dire que j'ai besoin de l'approbation des autres pour me sentir validé. Mais quand je rentre là-dedans, en fait, j'agis pour plaire aux autres. Et c'est vraiment un problème dans les équipes parce que, en fait, on devrait construire notre vision, on devrait essayer d'établir notre vision. Et c'est bon, moi je ne suis pas du tout à dire qu'il faut aller écraser les autres, qu'importe ce qu'ils en pensent, pas du tout, on parle de travailler en équipe. Mais il y a vraiment cette réalité de se poser la question, est-ce que je fais ça juste pour plaire aux autres? Si les autres, ah ouais, mais on devrait faire ci, on devrait faire ça, ouais, vous avez raison, on devrait faire ci. Je ne crois pas du tout qu'on doit faire ça, mais ils l'ont demandé, alors c'est important qu'on le fasse. Et je pense que c'est un petit élément, c'est rarement quelque chose de conscient, quelque chose de recherché, quelque chose d'intentionnel, mais c'est un grand danger. Et en fait, quand on vit ça, on n'arrive plus à travailler en équipe parce qu'on est constamment en train d'essayer de plaire à tout le monde et nos équipes vont bouger, nos équipes vont grandir et ça va devenir insoutenable à moyen terme. Donc, il faut toujours checker pourquoi est-ce que je fais, c'est quoi mes motivations. Je veux à tout prix éviter de faire les choses uniquement pour plaire aux autres. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne dois pas être à l'écoute. Si tu m'entends dire ça, réécoute les anciens épisodes. C'est vraiment pas ce que je dis. C'est important de collaborer, c'est important d'entendre l'avis des autres, c'est important de respecter l'avis des autres, mais c'est important de ne pas faire les choses à cause de la crainte qu'on a des autres. J'en arrive gentiment à l'avant-dernière, à la cinquième peur, le cinquième piège à éviter, c'est le piège de vouloir toujours le consensus à tout prix. Moi, je suis en Suisse, puis en Suisse, il y a quelque chose qu'on appelle la démocratie, puis c'est une démocratie très particulière. En tant que Suisse, quand on regarde ce qui se passe dans le monde au niveau politique, c'est des fois assez compliqué pour nous à comprendre, parce qu'on vit dans un fédéralisme où, en fait, les gens s'entendent, on n'a pas un président, alors on a un président de titre, mais en fait, on a 7 responsables qui travaillent dans le palais fédéral. Donc ce fédéralisme fait qu'on a une base un peu de travail où on cherche souvent le consensus. Puis on cherche le consensus, c'est-à-dire qu'on cherche que tout le monde soit d'accord, puis tant que tout le monde n'est pas d'accord, on ne fait pas. Puis c'est un problème quand ça devient le consensus à tout prix. C'est un piège quand ça devient le consensus à tout prix. Parce qu'en fait, plus on avance, plus la réalisation de nos objectifs deviennent complexes et plus on réalise qu'on ne va pas toujours avoir le consensus de tout le monde. Les gens ont des perspectives différentes, des attentes différentes, des questions différentes et on doit vraiment veiller à ne pas chercher à fonctionner uniquement sur le consensus de tout le monde. Souvent, le consensus de tout le monde, il est aussi motivé, ce piège-là, par la peur du conflit. On a tellement peur du conflit, on a tellement peur du désaccord, on a tellement peur de la confrontation qu'on se dit si tu n'es pas d'accord, on ne fait pas. Ce qui se passe quand on est dans le consensus à tout prix, c'est qu'on n'avance plus en fait. Un autre élément qui peut amener le consensus à tout prix, c'est quand on a une réalité où on veut que personne ne sorte du lot. J'ai entendu ça en France, j'entends ça aussi en Suisse, et on veut qu'aucune tête ne dépasse, on ne veut pas avoir de leader plus important que les autres, donc on veut toujours le consensus. Mais la réalité, c'est que c'est vraiment rare qu'on ait 100% de personnes qui soient d'accord sur une décision. Parce que chacun l'aperçoit avec sa perspective, avec ses enjeux, avec sa saison de vie. Puis des fois, les gens disent « Ah, je ne suis pas sûr. » Et puis l'autre « Moi, je ferais ça différemment. » Et puis c'est bon d'avoir ces espaces de discussion, mais il ne faut pas rechercher le consensus à tout prix. C'est un piège en équipe. Si on cherche le consensus à tout prix, on risque de ne rien faire, on risque de faire trop peu de choses. Et j'ai vu trop de projets ne pas avancer parce qu'on recherchait le consensus à tout prix. Alors, je vais te donner juste un exemple pour que tu vois de quoi je parle. Et puis ensuite, je te dis qu'est-ce que moi j'encourage, en tout cas sur cette question-là. J'étais une fois dans un contexte communautaire d'une église. Et puis, il y avait un projet qui était de changer les sièges de l'église. Puis, c'était une église assez historique et ils avaient des bancs. Et puis, en fait, il y avait la question de savoir est-ce qu'on garde les bancs, est-ce qu'on enlève les bancs, est-ce qu'on met des chaises, Et l'histoire, je sais, ça va sembler peut-être surprenant ou fou, mais ça a pris plus de deux ans à être solutionné. Parce que d'abord, il fallait qu'on soit d'accord que ce n'était pas les bancs. Puis il fallait comme le consensus, il fallait que tout le monde soit d'accord, il fallait qu'on ait l'unanimité. Puis on s'est rendu compte que ce n'était pas possible, ça n'allait jamais se réaliser, jamais tout le monde serait d'accord entre est-ce qu'on doit garder, est-ce qu'on ne doit pas garder des bancs. Alors, une fois qu'on a eu ça, on a eu une phase de test. Dans cette phase de test, on a mis deux sièges et puis les gens pouvaient aller sur un siège, expérimenter un petit peu le siège et puis répondre oui, je suis d'accord pour ce siège, je ne suis pas d'accord pour ce siège, voter. Et vraiment, ça a pris un temps fou. Et il y avait cette idée, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on attend aussi longtemps? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas confiance à un groupe de personnes qui est dédié à ça, puis qu'ensemble, ils décident, on a l'impression que c'est plus pertinent de garder les bancs, ou alors on a l'impression que c'est plus pertinent d'aller avec les chaises. On y va, on est d'accord, on vous fait confiance, on avance. Et je pense que cet exemple-là, il est fou là, mais il permet de comprendre ce que je dis, puis je crois que plutôt que le consensus à tout prix, plutôt que l'unanimité, plutôt que la question où tout le monde est d'accord, ce que j'aimerais en proposer comme solution, c'est plutôt ce que j'appelle la soumission mutuelle, se soumettre les uns aux autres. En fait, se donner des sphères d'influence et se respecter dans ces sphères d'influence. Et toi, tu choisis pour ça, puis je te fais confiance pour ça. Toi, tu choisis pour ça, je te fais confiance pour ça. Et je vais l'illustrer avec l'idée d'un repas d'anniversaire. Puis si tu dois faire un repas d'anniversaire, imaginons qu'il faut que tu achètes des décorations, imaginons qu'il faut que tu prépares un menu, imaginons qu'il faut que tu loues un lieu pour faire cette fête, imaginons qu'il faut que tu fasses une liste d'invités. Et j'aime l'idée de la soumission mutuelle, c'est-à-dire que chacun est attribué avec une tâche. Toi, tu regardes pour des lieux, toi, tu regardes pour un menu, toi, tu regardes pour des décorations, toi, tu regardes pour une liste d'invités. Et puis, alors qu'on fait ça, chacun part là-dedans, puis on se soumet les uns aux autres. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... On est dans un endroit où les gens communiquent librement, il n'y a pas de secret. Donc, je peux voir, je dirais, tu as oublié cette personne dans les invités, ou bien au niveau des décos, moi, je préfère un peu ci, je préfère un peu ça. Puis quand on se voit, chacun amène ses propositions, puis on se soumet les uns aux autres. C'est quoi? J'aurais fait ça différemment, mais merci d'avoir fait ça. Je pense que c'est bon. On t'avait donné ce rôle, c'est pas pour rien qu'on t'a donné ce rôle. Vas-y, fonce dans ce rôle. Donc, au lieu du consensus à tout prix, ma solution ou mon conseil, c'est de viser une soumission mutuelle. J'arrive avec mon dernier piège à éviter pour un travail en équipe. Ce dernier piège, j'en ai parlé longuement lors du dernier épisode, mais je peux pas ne pas le répéter. C'est le piège de perdre la vision. On a parlé d'avoir une vision, de protéger la vision, de multiplier la vision, mais je crois que c'est vraiment un piège quand on ne sait plus pourquoi on fait ce qu'on fait. Et j'ai vraiment une voix comme un mentor, une personne de grande valeur que j'apprécie, qui est dans ma vie, qui disait on doit constamment rappeler la vision. En tant que leader, on passe notre temps à rappeler la vision. On passe notre temps à rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait. Et quand on voit que c'est bien, puis quand on voit que ça grandit, même s'il y a plein d'idées, même s'il y a plein de possibilités, nous, le but, c'est de garder la vision. On pourrait dire autrement, c'est de garder le cap. Ou pour citer Simon Sinek, que j'ai cité régulièrement, c'est qu'on soit au clair sur pourquoi on fait ce qu'on fait. Start with the why. Donc, je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas en parler davantage, mais juste te dire, ne perds pas la vision. Juste pour chacun, là, je vais répéter les pièges que j'ai cités, les 6 pièges à éviter pour être une équipe performante. Le premier de ces pièges à éviter, faire ce que je dis, pas ce que je fais. Le deuxième, mettre en place une culture du secret. Le troisième, garder, maintenir la réalité du gossip. Le quatrième, agir basé sur la peur des hommes. Le cinquième, rechercher le consensus à tout prix. Et le sixième, perdre la vision. Ça, c'est des pièges que je vois ou que j'ai vus trop souvent dans les équipes. Puis je vous encourage à réfléchir à ça, puis à voir comment est-ce que nous, on ne met pas ça en place. Comment est-ce que nous, on veille à ne pas tomber dans ces pièges. Puis si j'ai donné pour les uns et les autres quelques exemples de conseils, quelques possibilités pour éviter ces pièges. Puis s'il y en a d'autres que tu n'as pas, je dis comment on pourrait faire, écris-nous. Écris-nous, ça nous fera plaisir. J'arrive à la fin. Je te remercie d'avoir écouté. On a dépassé un peu les 20 minutes, mais c'est grosso modo le temps que je me donne pour te donner du contenu que j'espère de qualité. J'espère que ça t'est utile. Vraiment, sincèrement, c'est le but de ce podcast. Si tu nous rejoins pour la première fois, c'est Let's Talk Leadership. Je m'appelle Yves et j'ai un plaisir fou de proposer ça. Je vous remercie. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast parce qu'on te l'a recommandé ou quoi, va écouter Les yeux dans les yeux, un épisode de cette saison où j'explique un petit peu le projet de Let's Talk Leadership vraiment avec mon cœur. Et voilà. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que dans cette saison, on a encore 2 épisodes. Un épisode interview, un épisode questions-réponses. Donc, envoyez-nous vos questions. Et puis, d'ici là, je vous souhaite de continuer à être des incroyables leaders, continuer à prendre soin de vous, à développer votre leadership et à être vous-même, parce que tous les autres rôles sont déjà pris. À très bientôt.